France Culture.
Bonjour Didier Fassin.
Bonjour Caroline Brouet.
Après le choix de la médecine, puis la bifurcation vers l'anthropologie et les sciences sociales, après l'anthropologie politique de la santé, l'expérience en Afrique du Sud, pour ce troisième épisode de Nos Avoies Nues, j'aimerais vous proposer de vous pencher sur le nouveau domaine de recherche qui a été le vôtre et qui continue de l'être d'ailleurs, c'est les questions morales et politiques. Alors, comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux questions morales et politiques, questions morales et enjeux politiques?
Les questions politiques, je crois, m'intéressaient depuis longtemps et je n'avais jamais accolé l'adjectif moral ou le nom moral à mes travaux. Et je me suis rendu compte, en avançant dans mes recherches, notamment dans les années 1990 et au début des années 2000, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension qui était à la fois évidente et que je ne traitais pas comme telle, qui était la dimension morale. Et ça pouvait concerner aussi bien la question de la régularisation des étrangers en situation irrégulière pour raison médicale. Ça pouvait concerner les orphelins du sida et leur prise en charge en Afrique du Sud. Ça pouvait entrer en ligne de compte sur la question de l'aide financière aux chômeurs et précaires sous Lionel Jospin. C'était aussi ce que j'avais rencontré dans des recherches sur les suites d'une catastrophe, un glissement de terrain qui avait fait de nombreux morts au Venezuela, qu'on appelait la tragedia. Et donc, dans tous ces cas, ce qui me semblait particulièrement intéressant, c'est que étaient mobilisés des sentiments moraux. Des sentiments moraux et notamment des réactions de compassion à l'égard des victimes. Mais dans tous ces cas, cette compassion n'était jamais très loin d'une attitude inverse qui était celle d'une forme d'hostilité. Et ça pouvait s'accompagner de répression, ce qui m'avait amené à écrire un article qui s'appelait « Compassion and Repression »,« Compassion et répression », et qui portait sur la manière dont, dans le Calaisie, à Sangatte en particulier, la préfecture et les forces de l'ordre, l'État, disons, plus largement, étaient amenés, dans certains cas, à invoquer un argument compassionnel à l'égard des migrants ou des exilés qui se trouvaient sur cette côte et essayaient de se rendre en Grande-Bretagne, et à d'autres moments, faisaient intervenir de manière brutale, violente, des forces de police et de gendarmerie. Je dois dire qu'aujourd'hui, la compassion a disparu et que ne reste plus que la préoccupation sécuritaire. Mais à l'époque, il y avait donc cette double dimension et en fait, j'ai commencé donc à m'interroger sur cette dimension morale, en sachant que les sciences sociales, et en particulier, je dirais, l'anthropologie, mais la sociologie à un moindre degré, ont eu beaucoup de mal, à la différence de la philosophie, par exemple, à traiter la question morale. Alors, dans une certaine mesure, il y avait cette idée que, au fond, tout impliquait des valeurs. On étudiait une société, il y avait forcément des valeurs et donc une dimension morale, mais jamais on n'abordait cette question, ou presque jamais, de manière centrale. Alors, en même temps, il faut bien sûr rappeler que Émile Durkheim, qui est un des fondateurs de la sociologie, lorsqu'il est mort, était en train d'écrire un livre sur la morale et qu'il a écrit quelques textes sur le fait moral qui d'ailleurs ont inspiré dans les années 50-60 quelques anthropologues qui travaillaient dans d'autres sociétés à essayer de retrouver ce que lui, Durkheim, avait identifié, c'est-à-dire la morale comme devoir, comme obligation, et il ajoutait une obligation à laquelle peut s'associer un désir de faire le bien, d'aider, etc. Il y a eu un autre mouvement qui s'est dessiné, qui est d'inspiration non plus durkheimienne mais foucauldienne, donc de Michel Foucault, et qui s'intéresse à alors ce que lui appelait une subjectivation morale ou subjectivité morale, ce qui emprunte en réalité à une philosophie qui est celle d'Aristote, de l'éthique de la vertu, par opposition à l'éthique de l'obligation ou du devoir, c'est-à-dire que dans l'éthique du devoir durkheimienne, eh bien, on obéit à des choses que la société nous impose. Dans l'éthique de la vertu, c'est nous-mêmes qui décidons, avec une relative liberté, de ce qu'il est bon de faire, ce que nous pensons qu'il est bon de faire. Donc, il y avait ces deux orientations-là. qui néanmoins ne correspondait pas tout à fait à la manière dont je voyais les choses à partir de mes travaux, puisque dans une certaine mesure, ces recherches supposaient qu'il y avait une sorte de matière morale, c'est-à-dire qu'on pouvait cerner ce qui était moral. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de montrer que la morale est toujours construite. On transforme des questions de société en questions morales à un moment donné, ce qui suppose des agents qui le font, ce qui suppose des arguments qui vont être employés. Et moi, c'est pour ça que je ne parle pas de morale, mais de questions morales, c'est-à-dire de quelque chose qui est dans une dynamique de construction sociale, de production sociale. Et j'ajoute, c'est pour ça que dans l'intitulé de ma chaire au Collège de France, les deux termes sont associés, questions morales et enjeux politiques, c'est que, non pas exclusivement, mais principalement, ces questions morales sont liées à des enjeux politiques, qu'il s'agisse d'immigration, qu'il s'agisse d'orphelins du sida, ou qu'il s'agisse des chômeurs en France, etc. Dans tous ces cas, la morale n'est pas quelque chose qu'on peut extraire, mais c'est quelque chose qui est en permanence en tension avec la politique.
Toujours est-il qu'au tournant donc de ces années 1990-2000, vous constatez que les sentiments ou la morale humanitaire ou la compassion est devenu un ressort essentiel des politiques. Vous avez publié, Didier Fassa, en 2010, le premier ouvrage qui parle de ces questions morales avec des enjeux politiques, intitulé « La raison humanitaire » et qui partait d'une expérience bien précise que vous avez connue, vous, de la régularisation des étrangers malades. Pourquoi la raison humanitaire ? Qu'est-ce qui fait le lien entre cette situation-là très concrète et ce que vous appelez un gouvernement humanitaire ?
Alors, la régularisation pour soins, qui a eu pour nom pendant une certaine période raison humanitaire, pour raison humanitaire, c'était le terme employé par l'administration, c'est le résultat de luttes d'associations pour les droits des patients, et notamment des organisations humanitaires et des organisations de lutte contre le sida, qui avaient fait pression sur les gouvernements à la fin des années 80, début des années 90, pour que on ne renvoie pas des gens qui étaient gravement malades. Et donc, dans un premier temps, ça a été laissé à la discrétion des préfets qui pouvaient décider sur les dossiers qu'on leur présentait, si il fallait confirmer le départ de ces personnes, ou au contraire, s'il fallait leur donner une autorisation de séjour provisoire. Et ensuite, c'est entré, disons, plus largement dans les pratiques, et puis en 97, c'est devenu un élément de la loi dite chevènement à l'époque. Et donc, ça consistait à dire que des personnes qui étaient en situation irrégulière, mais qui présentaient une maladie grave, qui pouvaient pas être soignées dans leur pays, pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour pour soins. Et ça me paraissait intéressant de constater cet élément au moment même où l'asile se trouvait, lui, en recul, et où on était passé dans les années 1970 à 9 personnes sur 10 demandant l'asile qui l'obtenaient, à début des années 2000, une personne sur 10 demandant l'asile qui l'obtenait. Donc on avait une inversion quasiment des chiffres, au point que dans cette période-là, les calculs que j'avais faits montraient que on avait 7 fois plus de chances d'être reconnu comme ayant le droit de rester sur le territoire si on pouvait invoquer une maladie grave que si on pouvait invoquer une menace...
Une poursuite, une persécution politique.
Une persécution politique, religieuse, ethnique, etc. Au point d'ailleurs que des gens qui étaient déboutés du droit d'asile s'entendaient dire par leur avocat, ou même parfois par des associations, voire par des agents à la préfecture, mais est-ce que vous n'avez pas une maladie suffisamment grave qui vous permettrait d'obtenir les papiers autrement ? Donc ce moment-là m'est apparu comme un moment important, mais dont j'ai trouvé de très nombreuses traces, et aussi bien en Afrique du Sud...
Oui, c'est pas seulement en France, ce que vous décrivez là.
Bien sûr. Et ça correspond aussi au moment où se développe l'humanitaire, dans les années 70 avec Médecins Sans Frontières, dans les années 80 avec Médecins du Monde, et puis bien d'autres organisations qui soit sont des organisations avec une ancienneté comme Oxfam ou d'autres, qui sont en quelque sorte rebaptisées ou se rebaptisent organisations humanitaires, Et donc la question humanitaire devenait quelque chose de très important, au point que le candidat républicain à l'élection présidentielle aux États-Unis, George W. Bush, dans sa deuxième campagne électorale, se présentait comme un conservateur compassionnel. Et on avait les mêmes genres d'arguments qui étaient utilisés par le candidat à l'élection en France, Nicolas Sarkozy, parlant aussi, lui, de la compassion que nous devions avoir à l'égard de la souffrance des Français. Donc, ce langage de la compassion et cette invocation de l'humanitaire pouvait même aller jusqu'à des interventions militaires qu'on appelait humanitaires, avec une confusion que les organisations non gouvernementales ne cessaient de dénoncer, justement parce que, d'une part, il y avait une hypocrisie, mais d'autre part, ça les mettait en danger.
Et puis c'est une tension entre compassion et répression, humanitaire et sécuritaire, que vous allez poursuivre, Didier Fassin, puisqu'à la fin de votre livre « La raison humanitaire », dans la postface, vous écrivez « La fin du XXe siècle avait été l'âge de l'humanitaire, le début du XXIe aura sonné l'heure du sécuritaire ». Alors est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes allé passer 15 mois dans une unité de la BAC, la brigade anticriminale de la région parisienne, et 4 ans dans une maison d'arrêt, étudier le quotidien de la police et des prisonniers, et pas seulement des prisonniers d'ailleurs, de tous les personnels de prison?
Bah effectivement, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que je pourrais dire, en étant schématique et légèrement ironique, que j'avais étudié dans un premier temps la partie lumineuse des questions morales à travers l'humanitaire, même si je ne me privais pas d'une réflexion critique sur les conséquences et les usages de l'humanitaire. Mais ensuite, je suis passé du côté obscur, c'est-à-dire du côté de l'appareil de répression des États, et ce qui m'a amené à travailler, comme vous le rappeliez, à la fois sur la police, sur la prison, et un petit peu entre les deux sur la justice, puisque évidemment, les policiers remettent aux juges, et les juges décident éventuellement de condamner à des peines d'emprisonnement.
Donc, je rappelle quand même que la journée, vous donniez des cours. Hein. Donc, par exemple, quand vous avez travaillé avec une des BAC de la région parisienne, c'était de nuit, vous suiviez les patrouilles de nuit.
La plupart du temps, en effet, je retrouvais les patrouilles vers 9h du soir et je restais avec elles jusqu'à 1h, 2h du matin. Il m'est arrivé aussi de sortir dans la journée. Mais au fond, ce qui m'intéressait dans ce travail sur la police, à cette époque, je travaillais sur les discriminations raciales et je savais que, par des enquêtes qui ont été faites au plan européen, je savais d'une part que la police était l'expérience la plus ordinaire de discrimination raciale que les gens pouvaient avoir, en tout cas qu'ils décrivaient dans les enquêtes, et deuxièmement que la France était le pays européen où cette discrimination raciale par la police était perçue comme la plus forte.
Donc vous vouliez aller vérifier une intuition, c'est ça ?
Au départ, disons, je travaillais sur ces questions et puis... Et puis ça m'a amené à rencontrer une commandante de police avec qui j'ai eu une conversation parce qu'elle-même s'occupait des problèmes de discrimination raciale. Donc on a eu cette conversation et à cette occasion, je me suis rendu compte qu'il était peut-être possible de faire un travail en étant présent au milieu de patrouilles de police.
On est entre mai 2005 et juin 2007 quand vous parlez de cette période. Je rappelle qu'à ce moment-là, se sont déclenchées les émeutes en banlieue parisienne après la mort de deux jeunes adolescents à Clichy-sous-Bois. Vous étiez en plein milieu, là.
Alors, en fait, mon travail a commencé 4 ou 5 mois avant que ne surviennent les événements de Clichy-sous-Bois. Et en fait, j'y étais déjà parce que, évidemment, les protestations de Clichy-sous-Bois, parce qu'en général, on évite d'utiliser le terme émeute.
Non, c'est moi qui l'ai dit.
Mais... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'ordinaire des interactions entre la police et les habitants. Autrement dit, je ne cherchais pas à aller là où il y avait des explosions de violence d'un côté ou de l'autre.
Je comprends bien, Didier Fassin, mais si je vous posais cette question du moment, c'est avant tout parce que me venait en tête la question de l'acceptation de votre présence. Vous étiez là avant, donc les 4 premiers mois se sont passés normalement, mais ensuite, sans doute que les relations se sont tendues. Et peut-être que la présence d'un anthropologue au milieu de tout ça n'était pas forcément la plus acceptée. Est-ce que les policiers de la BAC vous ont accueilli à bras ouverts ?
D'abord, j'ai eu beaucoup de chance parce que lorsque j'ai demandé au commissaire de la circonscription de sécurité où j'ai travaillé s'il était possible de rencontrer des policiers, mais peut-être aussi de faire un travail d'observation, il a immédiatement accepté. Il a accepté après avoir demandé à son directeur départemental de la sécurité publique. Alors je devais donner les jours et les nuits où je venais, mais j'ai eu une grande liberté. Et alors les policiers, je dirais, probablement dans un premier temps n'étaient pas très enthousiastes de ma présence, mais ils avaient un ordre de leur supérieur, donc ils étaient obligés d'en tenir compte. Et puis ma présence a été toujours extrêmement discrète, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de commentaires sur ce qu'ils faisaient, je n'ai jamais essayé non plus de les pousser à tenir des propos qui n'auraient peut-être pas tenu si je n'avais pas été là.
Et pourtant, donc, vous êtes retrouvé dans des situations pas forcément très très favorables pour eux. Je le sais parce que j'ai lu La Force de l'ordre, le livre que vous avez écrit, tiré de cette enquête, une anthropologie de la police des quartiers en 2011. Et on entend, on lit des policiers qui parfois vous remarquent en disant après coup, mais ah oui, vous étiez là, vous êtes vraiment très discret, on vous avait oublié que vous étiez là, et bon.
Oui, alors d'un côté ils avaient oublié, puis d'un autre côté ils savaient quand même que j'étais là, et donc certaines choses ne se passaient pas, et d'ailleurs ils me disaient, ben, si vous n'aviez pas été là, les choses se seraient passées différemment, en voulant indiquer qu'ils auraient été plus violents à l'égard d'une des personnes qu'ils avaient arrêtées. Et bien sûr, je n'étais pas dupe du fait que quelqu'un qui est là pour observer, même si c'est sur une période longue où on s'habitue, où on pouvait avoir des conversations qui étaient assez anodines, en roulant dans les quartiers populaires où ils étaient à la recherche de personnes qu'ils auraient pu contrôler ou de délits sur lesquels ils auraient pu intervenir. Donc je crois que cette relation a été, avec certains en particulier, relativement de confiance. Et d'ailleurs, cette relation de confiance est quelque chose qui, moi ensuite, m'a posé problème au moment d'écrire mon livre. Et il m'a fallu plusieurs années quand même pour arriver à trouver la manière de l'écrire. Parce que malgré la désapprobation que je pouvais avoir comme citoyen par rapport à des faits que j'avais vus et pour lesquels je n'étais jamais intervenu, il me semblait qu'il y avait quand même aussi une certaine loyauté à avoir vis-à-vis de ces gens qui avaient accepté ma présence et qui s'étaient laissés aller à montrer des choses de leur pratique. Et donc j'ai essayé dans le livre, que j'ai réécrit de nombreuses fois, de trouver une forme d'écriture assez neutre, aussi bien dans les descriptions que dans les récits. Mais déjà, rien que de raconter et de décrire, eh bien, ça a un impact sur le lecteur, évidemment.
Absolument.
Ou la lectrice.
Et de cet impact, nous parlerons dans l'épisode suivant pour décrire la façon dont vous travaillez. Donc, il y a à la fois l'enquête elle-même, ethnographique, Didier Fassin, et l'écriture. Mais avant cet épisode, je voudrais qu'on termine par le deuxième travail que vous avez effectué en 2015. Cette fois, en tous les cas, le livre a paru en 2015, donc l'expérience a eu lieu avant. Elle a duré en plus 4 ans, l'expérience de la prison. Ça a donné le titre du livre « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale ». Ce livre a reçu un prix d'écriture ethnographique. Première question, là aussi, l'univers pénitentiaire est suffisamment ouvert en France pour accueillir pendant si longtemps un chercheur venu étudier la condition carcérale française ?
Alors effectivement, c'est une surprise qu'on peut avoir, car autant la police et les forces de l'ordre d'une manière générale sont très difficiles à pénétrer, et notamment sous la forme d'observation, mais même dans certains cas de simple entretien. Autant dans de nombreux pays, et notamment aux États-Unis, la prison est un monde opaque à la recherche, autant en France, il y a une ouverture de l'administration pénitentiaire et des directeurs d'établissements à la recherche, sous certaines conditions, bien entendu. Il faut présenter son projet, il faut expliquer ce qu'on veut faire, etc. Mais c'est quelque chose, je crois, de tout à fait remarquable. Alors, qui tient d'abord, je crois, à une espèce de culture démocratique qu'il y a du côté du ministère de la Justice sur ce plan, puisque, bien sûr, autoriser des chercheurs, c'est bien sûr un enjeu de démocratie. Mais d'autre part, je crois qu'il y a aussi une dimension qui m'a souvent été dite, c'est que l'image de la prison est tellement négative, tellement mauvaise en France, que pour autant qu'il fasse confiance à un chercheur, il pense que ce qui sera produit ne peut pas avoir d'effet plus négatif que ce qui est déjà. Mais donc la prison est en quelque sorte ouverte à la recherche, et en essayant d'être là aussi le moins gênant possible dans le travail quotidien des surveillants, j'ai pu progressivement avoir accès à l'ensemble des activités depuis les commissions de discipline jusque aux interventions spéciales des ERIS, c'est-à-dire des unités armées qui interviennent dans les cas difficiles. Et donc j'ai pu avoir un accès très large, et même, il m'a fallu 3 ans pour ça, une certaine confiance de la part des personnes détenues, des hommes détenus, c'était une prison d'hommes, alors que ça avait été très difficile au début d'entrer en contact avec eux, à force de me voir, à force de s'interroger sur ma présence, de comprendre que je n'étais pas un directeur en formation vu mon âge. J'ai pu nouer des contacts et ensuite avoir des échanges individuels ou collectifs dans leurs cellules, de manière extrêmement franche et sans pression du tout. Donc je crois que si j'insiste là-dessus, c'est parce que la durée dans une recherche, et bien sûr l'attitude aussi, mais la durée est quelque chose de très important, à la fois pour voir des situations qui évoluent dans le temps, mais aussi pour montrer le sérieux de son travail, la confiance qu'on peut réciproquement avoir entre chercheurs et personnes qui font l'objet de la recherche.
Alors, je ne doute absolument pas du sérieux de votre travail, Didier Fassin, mais malgré tout, une question sur la généralisation de ces expériences, parce que vous intitulez le livre sur la police, une anthropologie de la police des quartiers, et vous intitulez en sous-titre l'expérience sur la prison, une anthropologie de la condition carcérale. Or, vous êtes allé dans une prison et dans une unité de police. Alors, comment peut-on faire une anthropologie de la condition carcérale ou de la police des quartiers à partir d'une seule expérience ?
Alors, c'est une des caractéristiques du travail ethnographique qui consiste à approfondir dans un lieu. Alors, j'ai un collègue, Alban Bensa, qui, lui, a travaillé pendant 40 ans dans le même village, en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, on peut penser que ça limite considérablement, mais au contraire, je veux dire, ça permet un approfondissement et une richesse dans la compréhension qu'on peut avoir. Et
c'est avec lui que vous avez fondé l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS.
Exactement. Et donc, j'ai plaidé pour deux formes de généralisation qu'on pouvait faire dans les sciences sociales. Il y a d'une part une généralisation que j'ai appelée horizontale, c'est-à-dire où on fait par exemple ce que font les démographes, les épidémiologistes et souvent les sociologues également. On fait un tirage au sort dans la population ou dans un... Et donc, on peut dire ensuite, parce que les choix de population ont été faits au hasard, on peut dire que ce qu'on a trouvé peut être extrapolé à l'ensemble de la population, puisque cet échantillon est dit représentatif de la population générale. Et bien sûr, c'est très important d'avoir ces éléments-là. Mais sur des choses qui sont beaucoup plus fines, qui portent sur des mécanismes, des logiques, des phénomènes complexes, eh bien, évidemment, il suffit pas de passer des questionnaires à des gens qu'on rencontre pendant une heure. Il est très important, avec le temps, de construire des modèles explicatifs. Et à ce moment-là, ces modèles explicatifs ne servent pas à dire « c'est partout pareil », mais on retrouve partout certains mécanismes. Par exemple, lorsque j'ai travaillé sur la question des outrages et rébellions dans la police, c'était une accusation extrêmement fréquente utilisée par les policiers lorsqu'ils avaient une interaction un peu rude avec quelqu'un, et notamment lorsqu'ils avaient eux-mêmes commis des violences. Eh bien, j'ai pu montrer une chose que tous les policiers et leurs supérieurs savent très bien, c'est que l'usage de cette accusation d'outrage et rébellion traduit moins l'agressivité du public que la violence des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, ça se voit très facilement dans un commissariat, parce que certains policiers qui se comportent courtoisement avec les habitants n'ont jamais d'outrage et rébellion, et d'autres les accumulent, avec d'ailleurs un intérêt financier à cela, puisqu'ils demandent des dommages et intérêts. Et donc ce mécanisme-là, qui consiste à renverser l'accusation dont soi-même on pourrait être la cible, eh bien, c'est un phénomène qu'on retrouve dans des polices que, lorsque j'ai présenté au Brésil, ou bien en Chine, ou bien aux États-Unis, mes travaux, eh bien, immédiatement, les spécialistes de la police identifiaient les mêmes mécanismes dans leur... Alors, ça ne voulait pas dire que tous les policiers fonctionnaient de la même façon. Au contraire, c'était l'inverse. Mais il y avait cette généralisation que j'ai appelée verticale.
On reste sur cette idée parce que elle nous servira beaucoup pour l'émission suivante dans laquelle nous allons travailler sur la démarche de l'ethnographe, essayer de comprendre quelle est la méthodologie et quels sont les biais potentiels. Mais je voudrais juste terminer cette émission par, là encore, un peu comme à la fin de l'épisode précédent, je suppose qu'on ne sort pas indemne de ce genre d'expérience. Je crois que cette expérience de la prison a été très empreinte pour vous d'une lecture de Dostoïevski, des souvenirs de la maison des morts, et que vous avez été marqué par cette expérience. Vous êtes un chercheur affecté. On verra demain si vous êtes un chercheur partisan, mais là, vous êtes un chercheur affecté. Et je voudrais que vous nous parliez de cette affectation.
Absolument. Je dis à la fin du livre que, au fond, plus que Michel Foucault ou Erving Goffman, qui sont deux auteurs qui ont dit des choses extrêmement importantes sur la prison, le travail que je faisais et la manière dont j'essayais d'aborder les choses me rapprochait plus de Dostoïevski et de son expérience, alors lui qui était son expérience personnelle d'emprisonnement. Et en effet, d'une part, c'est ce que j'ai essayé de restituer par l'écriture, c'est-à-dire l'expérience, le quotidien, celui des surveillants, celui des personnes détenues, avec toutes les douleurs, mais aussi les solidarités, mais aussi les moments plus heureux, etc. Mais effectivement, je dois dire que plus encore le travail sur la prison, plus que celui sur la police, m'a profondément affecté. C'est une expérience d'ailleurs que d'autres ont eue également en travaillant en prison, que il m'arrivait plus d'aller au cinéma ou de faire quelque chose en me disant les gens que j'ai vus aujourd'hui ou que j'ai vus la semaine dernière, eux n'ont pas cette possibilité et peut-être ne l'auront pas avant des années. Donc j'ai été effectivement très profondément marqué par cette expérience et je dirais par la dignité que j'ai pu rencontrer chez les personnes avec qui j'étais en relation pendant toutes ces années.
Merci Didier Fassin.
Merci.
À suivre l'épisode 4, Perspective critique. À demain. C'était À Voix Nue avec Didier Fassin. Réalisation Asia Weber, prise de son Laurent César, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.